Bienvenue au Dénominateur commun. Je suis Simon Constantineau.
Et moi, Nicolas Fortin. Dénominateur commun est une plateforme où nous recevons des Québécois au parcours inspirant, issus de divers domaines et qui ont marqué leur sphère d'expertise.
Nous discutons de leur carrière et des éléments clés qui ont contribué à leur succès, dans le but de s'inspirer de ceux-ci et de tirer des leçons, d'améliorer nos habitudes de vie et de découvrir de nouvelles manières de penser.
Nous espérons que ces discussions pourront vous amener sur des pistes de réflexion intéressantes et que vous puissiez appliquer quelques-uns de ces conseils à votre carrière et à votre vie personnelle.
Nicolas et Simon sont des amis de longue date et se sont toujours intéressés au parcours des personnes qui ont accompli de grandes choses. Aujourd'hui, ils ont la chance d'explorer ces parcours inspirants par l'entremise de leur podcast. Simon est un investisseur. Il a été analyste en capital de risque chez Innovia Capital pendant 2 ans. Avant de se joindre à Innovia, Simon était analyste dans l'équipe de VU Venture Partners à San Francisco. Il est également président de YCIF Montréal. Nicolas est consultant en management chez KPMG dans l'équipe expérience client. Avant KPMG, Nicolas était responsable du marketing et de la stratégie chez Cano Company, une start-up de développement durable. Il a commencé sa carrière en marketing chez L'Oréal Canada. Les idées et opinions exprimées par Nicolas, Simon et leurs invités sont personnelles et ne reflètent pas l'opinion de leurs employeurs respectifs. Les discussions sont strictement destinées à des fins d'information générale et ne doivent en aucun cas être interprétées comme un conseil en investissement.
Notre premier invité est Robert Dutton. Il a été le PDG de Rona pendant plus de 20 ans et a passé plus de 35 ans au sein du géant de la quincaillerie. En 2012, au moment où Robert Dutton a quitté l'entreprise, Rona était le joueur le plus important dans l'industrie au Canada avec 1500 points de vente et des revenus d'environ 5 milliards de dollars.
Robert Dutton est une inspiration pour la jeunesse québécoise. En plus d'avoir eu une carrière exceptionnelle, il a un désir d'aider les jeunes d'aujourd'hui qui seront les leaders de demain. Robert Dutton est professeur associé à HEC Montréal, il est impliqué avec l'école d'entrepreneurship de Beauce et donne beaucoup de son temps au programme Rémi Marcoux. Et il fait tout ça bénévolement. Il prend même le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Robert, j'aimerais d'abord que vous nous parliez de votre vision de la vie lorsque vous êtes sorti de l'université.
Bien, écoute, ma vision de la vie, c'était un peu curieux parce que moi, j'étais quelqu'un de très timide, réservé, quelqu'un qui n'avait aucune confiance en lui à ma sortie d'université. C'était impossible pour moi d'imaginer que j'irais travailler dans une entreprise. Alors, j'ai réussi à convaincre mes parents que moi, dans le fond, je voulais prendre la relève du magasin familial parce que pour moi, c'était ma zone de confort. Et je ne voulais pas sortir de cette zone de confort-là. Alors, évidemment, c'est une petite quincaillerie à Laval, comme un dépanneur, si on peut dire. Alors, évidemment, il n'y avait pas... c'était pas très flamboyant. Mais pour moi, c'était la solution à me préserver du choc qu'aurait eu d'aller travailler dans une grande entreprise, rencontrer des gens que je ne connaissais pas. Alors, c'était comme... j'étais un peu déçu de moi, je l'avoue. Mais en même temps, c'était impossible pour moi d'imaginer d'aller travailler dans une entreprise. Alors, mais le hasard a voulu que le premier soir que je travaille, le premier jour que je travaille dans la quincaillerie de mes parents, mais comme pour prendre la relève, il y a une réunion chez Rona le soir, parce que Rona est à l'époque une coopérative, donc ils ont beaucoup de réunions avec les marchands. Alors, mon père me tire à la réunion. J'y vais et 2-3 jours plus tard, le président m'appelle et il me demande de me rencontrer à son bureau. Et là, j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Puis c'est un monsieur, tu sais, il n'était pas dans la dentelle. Tu sais, je veux voir à mon bureau à 10 heures vendredi matin. Alors là, je me suis rendu à son bureau, puis en me disant, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Et effectivement, j'aurais dû être plus prudent parce que je me suis assis devant lui. Il m'a dit, est-ce que vous avez toujours travaillé pour votre père? Oui. J'ai appris le lundi soir, quand votre père m'a présenté, que vous avez terminé à HEC. Oui, en quoi? En marketing. En marketing? Écoutez, moi, on est en train de mettre le département de marketing en place. Vous pouvez commencer quand? Je ne peux pas commencer parce que je prends la relève de mon père. Puis... Voyons donc, la relève de ton père. Qu'est-ce que tu vas faire sur ton père? Voyons, une petite quincaillerie de rien à Laval. Tu sors de l'université, tu as du talent, tu es jeune, viens-t'en avec nous. Et là, il s'est mis à mettre tellement de pression que lorsqu'on est timide, à un moment donné, on n'a plus nos moyens. Hein? Alors, comme pour me sortir de cette situation-là, j'ai dit, OK, c'est correct, je vais venir. Alors, ça a été comme un choc énorme. Et là, on a donné une date d'entrée qui était le 27 juin 1977. Les gars, je me rappelle la date parce que pour moi, aujourd'hui, c'est ma date de naissance. Alors, au lieu de plusieurs années avant, 22 ans avant, c'est ma date de naissance. C'est vraiment là où j'ai... je peux dire que je suis comme venu au monde, là. Alors, c'était un peu hasard, mais ça arrive souvent. J'ai regardé avec mes collègues, ça arrive souvent que quand on termine l'université, on a accepté un emploi. Je le vois encore aujourd'hui, dans la première année, souvent, on va changer d'emploi. T'sais. Mais moi, ça a été vraiment radical, là.
Parlez-nous de votre ascension au sein de la compagnie.
J'ai eu un coup de foudre avec l'organisation. En fait, j'ai pas eu le coup de foudre à vendre des clous ou à aider des gens à vendre des clous, mais je suis tombé en amour avec cette organisation-là, son histoire, une coopérative québécoise, 350 entrepreneurs qui sont dans une période où ils sont vraiment dans une période d'expansion, de croissance énorme. Il y a des concurrents canadiens, américains qui viennent s'installer. Ils veulent défendre leur territoire, ils veulent défendre leur place. Tu sais, le buzzword, c'est « faut battre les Anglais ». Alors, moi, je suis comme, waouh, faut battre les Anglais, tu sais. J'ai un côté nationaliste, puis il faut qu'on prenne notre place. Et puis, j'ai vraiment eu un coup de foudre incroyable pour cette organisation-là, qui en plus avait des valeurs importantes. Puis, tu sais, c'était, tu sais, on va dire du bon monde, là. Je suis tombé dans du bon monde, qui faisait confiance aux jeunes. Et en plus, qui, tu sais, il y avait un. Il développait, peut-être sans s'en rendre compte, mais un écosystème économique, là, dans le sens qu'ils encourageaient beaucoup les fournisseurs québécois, ils travaillaient beaucoup avec eux. Tant que Rona grossait, on créait de l'emploi au Québec. Donc, toutes ces valeurs-là, cet esprit-là, cette volonté de prendre notre place comme Québécois francophones, c'est vraiment, vraiment venu. Ça a été un coup de foudre incroyable. Donc, et j'ai progressé. Un an plus tard, j'étais nommé directeur des services aux membres. Les services aux membres, c'était tous les services, en fait, qui étaient reliés à supporter les membres dans leur croissance. Donc, on avait un architecte pour faire des plans, des designers, un département de décoration, un département d'études de marché. Donc, moi, je devais aider les marchands à croître. Donc, c'était vraiment... j'avais 23 ans. J'avais eu jamais d'employé sous ma charge. En fait, j'étais le plus jeune de mon département. Donc, j'ai été inévitablement obligé de sortir de ma zone de confort. Évidemment, la question, c'est « Ah, ben, t'es-tu dégêné tout de suite? Puis comment t'as fait ça? » Non, ça a pris du temps, c'était long. Mais on m'a, tu sais, c'est la vieille technique de l'époque. C'est la formation, c'est on te lance en milieu du lac, puis ben nage jusqu'au bord. Tu sais, c'est comme ça que tu vas t'en sortir. Alors, au début, je trouvais ça difficile, mais après ça, je me suis dit « Bon, OK, gars. » On va prendre votre temps, puis je vais le réussir. Puis j'aimais tellement l'entreprise, j'étais impliqué partout, j'étais curieux, je voulais voir tout ce qui se passait. Là, plus j'allais, plus on me confiait des responsabilités. Puis, tu sais, c'est un enfant. Quand on commence, des fois, écoute, le premier 6 mois, mon mandat était extrêmement ennuyant, pas valorisant du tout, mais je l'ai super bien fait. Parce que je me disais, je vais lui prouver au moins que, bien, regarde, je suis capable de faire des choses simples, mais très correctement. J'aurais pu dire, bon, ça, écoute, moi, je ne suis pas à la hauteur de ça. Je viens de sortir avec un bac à HEC quand même, tu sais. Je me dis, non, j'aime l'entreprise, je veux faire mes preuves, je vais bien faire mon travail pour commencer. Puis je pense que ça m'a payé parce que, bon, c'est ça, un an après, j'étais déjà directeur, puis j'ai monté après, puis je pense qu'ils ont vu mon engagement à l'intérieur de l'organisation. Puis, ils n'ont jamais arrêté de me donner plus de responsabilités. Je suis devenu vice-président développement de l'organisation et du marketing à 29 ans, puis président à 35 ans. Donc, mais c'est je dirais que ma clé, c'était mon engagement dans l'entreprise, mon engagement dans le projet de l'entreprise.
Donc, l'important, c'est de prendre sa place dès le début, puis de donner son maximum.
Oui, puis au départ, tu sais, moi, je n'avais jamais travaillé dans une entreprise, en fait. J'avais toujours travaillé sur le plancher de vente chez mon père. Donc, mais les premiers 6 mois, j'étais très en observation. C'était pas nécessairement très intéressant ce que je faisais, même si il y avait un côté utile pour l'organisation, mais c'était comme, j'étais en apprentissage. C'est quoi une entreprise? J'avais la chance d'être d'un bureau juste à côté de celui de mon président, qui donnait une vue sur l'ensemble du département des finances et qu'on appelait la comptabilité. Alors, il y avait le mouvement, je regardais comment on gérait les personnes, qu'est-ce qui se passait. Donc, sais, c'était vraiment comme un cours de réalité d'entreprise que j'ai pris. Et après ça, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait, puis je m'y suis intégré, et j'ai aimé ça, là.
Robert, à 23 ans, vous étiez déjà en position de leadership, mais vous dites également que vous étiez quelqu'un de très timide. Je me demande comment on fait rimer timidité avec leadership?
En fait, ma timidité était basée sur mon manque de confiance en moi. Moi, j'étais certain que je n'étais pas quelqu'un pour réussir dans la vie parce que je serais pas capable. Et ça vient du fait que lorsque j'étais jeune, je n'étais pas bon en sport. Et quand tu n'es pas bon en sport, jeune, bien évidemment, tu t'imagines que tu n'es pas bon tout court. Parce que être bon à l'école, quand tu as 13, 14, 15 ans, c'est pas très winner. C'est pas avec ça que tu fais un grand cercle d'amis. Alors que, en plus, j'ai un frère jumeau qui est une star au niveau du hockey. Donc, vraiment, et ça a venu mon manque de confiance. Toutefois, mon manque de confiance a fait que j'ai toujours voulu donner plus. Tu sais, quand on me donnait quelque chose, comme je disais tantôt, j'essayais toujours de faire plus que ce qu'on m'a demandé. Alors, moi, puis j'ai appris parce que les gens qui nous donnent des ordres au début, vous allez le remarquer, les jeunes, c'est que souvent, les patrons, ils pensent qu'on lit dans leur tête, puis ils nous ont dit 3-4 mots, ils nous ont donné un petit mandat, puis en fait, ils nous ont mal expliqué, ils nous ont pas donné l'échéancier. Moi, j'ai appris tout de suite à dire, c'est quoi l'échéancier, c'est quoi l'objectif que vous poursuivez, c'est quoi le résultat que vous attendez. Je retournais dans mon bureau et ma pensée, c'était, il faut que je prouve que je suis capable de faire plus. Alors, c'était toujours de dépasser les attentes. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup payé. C'est parce que j'étais celui qui arrivait toujours comme un peu avec une surprise de dire, c'était over-delivered tout le temps. C'est un terme anglais là, qu'on utilise. C'était toujours essayer de toujours faire plus que les attentes qu'on avait avec mon homme. Alors, je me mettais la barre haute parce que j'avais pas confiance en moi, donc je voulais prouver que j'étais meilleur que ce qu'il aurait pu penser. Donc, mon plus gros défaut, a développé ma plus grande qualité. Alors, c'est comme, OK, tant mieux que j'ai... Puis ça se vérifie souvent. Notre plus grand défi nous fait développer une plus grande force. Alors, c'est ça. Et donc, ça l'a aidé. Moi, il y a un mot important, là, les gars, tantôt, que j'ai parlé, c'est engagement. Puis encore aussi, quand j'étais chef d'entreprise, j'avais des gens, c'est quoi son niveau d'engagement? C'est quoi le niveau où il va montrer qu'il a l'entreprise à cœur? Ça ne veut pas dire qu'on va faire quelqu'un pour qui l'entreprise va donner tout le sens de sa vie. On fait des work alcoolics, c'est une maladie mentale. Mais c'est de dire, le 7h30, le 8h que tu es là, ben tu montres que tu es engagé et que tu veux. Et ça, c'est toujours gagnant auprès des chefs d'entreprise.
Pouvez-vous nous donner des exemples de comment un jeune peut démontrer concrètement son engagement?
Ben, tu sais, c'est évidemment, les gars, j'avais une chance. La première année, j'ai relevé directement du président. Donc, j'avais un accès privilégié au président. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Tu sais, ton engagement, bien, comme je disais tantôt, un, ce qu'on te demande de le faire, tu le fais très bien. Deuxièmement, tu poses des questions. Moi, je posais beaucoup de questions au président. Je me suis beaucoup intéressé à l'industrie. Je ne me suis pas juste intéressé à ce que l'entreprise faisait, mais j'ai essayé beaucoup de lire les revues qu'il y avait sur l'industrie, ce qui se passait auprès des consommateurs. Si vous avez suivi le cours de management au HEC, vous avez entendu parler du Pestel.
Oui.
On en prend ça, puis on dit, le Pestel, ça doit faire une affaire théorique. Non. Je dis toujours aux gens à qui j'enseigne aujourd'hui, le PSL, c'est une chose extrêmement importante de développer ce réflexe-là, de dire, hey, les positions politiques que le gouvernement a, est-ce que ça a un impact sur notre industrie ou même sur notre entreprise? Qu'est-ce qui va se passer économiquement? Qu'est-ce qui va se passer socioculturellement? Parce que, tu sais, en plus, nous, on est dans une entreprise de détail, donc, tu sais, on est un consommateur, notre client, là, c'est le consommateur direct. Alors, c'est de comprendre ça. Qu'est-ce qui va se passer en technologie? Je me suis beaucoup intéressé à ça, puis je pense que ça m'a permis de poser des questions intelligentes quand je rencontrais la direction. Et eux, ça leur permettait de dire, « Wow, il est vraiment intéressé. » Tu sais, c'est... Des fois, on me posait pas la question, mais je donnais mon opinion quand même. Ça, c'est l'avantage d'être jeune. Puis heureusement, peut-être que je les faisais sourire, mais je n'ai pas été pénalisé là-dessus.
Quel rôle a joué la chance dans votre parcours?
J'aime une phrase de Thomas Jefferson qui a été président des États-Unis qui disait « Plus je travaille, plus je suis chanceux ». Alors moi, je pense que, oui, j'ai été chanceux, par exemple, j'ai eu une entreprise, je suis arrivé dans une entreprise où je connaissais le milieu. T'sais, si j'avais été travailler pour un autre sorte de détaillant ou une autre entreprise, est-ce que j'aurais connu ça aussi bien que la quincaillerie? Non, je connaissais la quincaillerie, puis c'est bizarre parce que, tu sais, ça m'a apporté de quoi chose, quelque chose de connaître les produits, connaître comment fonctionnait un magasin. Deuxièmement, comme je disais tantôt, je suis rentré dans une entreprise où on faisait confiance aux jeunes. Ça, c'était une chance. Tout le long de ma carrière, c'était une chance. Parce que, tu sais, surtout dans la période de grande croissance, on fait confiance à ce jeune-là, on va faire confiance. Donc, tu sais, j'ai eu... Mais aussi, en même temps, les gars, il ne faut pas se le cacher, là, j'ai mis des heures, là, j'étais vraiment... c'est que le fait que je n'aie pas confiance en moi, je cherchais toujours mon dépassement personnel. Moi, en fait, ce qui m'a motivé... Oui, c'est vrai, tu vas voir, bon, hey, j'ai monté, donc, bon, j'avais des meilleures conditions salariales, j'avais un titre et tout ça, mais ce qui est important pour moi, c'est mon dépassement personnel. Tu sais, c'est de dire, hey, sais-tu quoi? J'agrandis mon terrain de jeu. C'est comme, hey, je pensais que je serais jamais capable de faire ça. C'était pas bien fait à 100%, mais, hey, j'ai quand même été capable de le faire, tu sais. Puis ça veut dire que la prochaine fois, je sais qu'est-ce que je vais faire pour corriger, ça va être encore mieux. Donc, j'ai développé un réflexe d'être mon propre coach. De ne pas me juger, puis de dire, OK, c'est correct, parce que, tu sais, on n'a pas le bon canton. Si on peut faire un podcast juste sur mes erreurs, il y a eu des erreurs, mais il y a eu des apprentissages aussi, tu sais. J'aime Nelson Mandela quand il dit, je gagne ou j'apprends. Mais moi, je trouve ça inspirant, puis ça décrit bien. Si j'avais fait des choses qui n'étaient pas correctes, j'apprenais, tu sais. J'arrivais à me corriger, puis... Donc, c'est d'être capable d'avoir un peu d'introspection, puis pas d'introspection dans le sens de jouer dans le nombril, là, mais d'avoir un regard externe pour dire, OK, ça, je peux améliorer ça, ça, je vais améliorer ça, je vais améliorer ça. Je pense que l'entreprise le voyait aussi, là, cette volonté-là. Mais il faut se prendre, tu sais, c'est comme... comment tu vas être bon au golf? C'est parce que tu joues puis tu pratiques, hein? Non, mais c'est comme... Moi, je dis, c'est comme faire un sport. Moi, je l'ai pris comme ça. Je vais me pratiquer. Parce que, tu sais, parler devant des foules de personnes, c'était loin d'être évident pour moi. Mais je suis arrivé dans une entreprise, une coopérative comme j'ai, où on a beaucoup de présentations à faire. Bien, inévitablement, les premières étaient pourries, mais pourries, incroyables. Mais après ça, bien, à un moment donné, j'ai dit, OK, je ne juge pas tout, là, je n'essaierai pas d'améliorer tout, je vais en prendre des petits bouts par petits bouts, mais je vais l'améliorer. Puis à un moment donné, bien, je suis devenu à développer une certaine aisance. Là.
Donc, il y a une valeur à faire des erreurs là, en début de carrière.
Bien, écoute, on apprend de ses erreurs. Le prix, c'est de le faire deux fois, mais tu as le droit une fois. L'autre chose aussi, c'est que dans ma chance, il y a une chose qui vient sur ma passion. Je ne le cache pas, je suis un passionné. Mais la passion, c'est, faut pas se mêler avec la passion amoureuse. Là. C'est deux choses différentes. La passion, c'est qu'est-ce qui te donne de l'énergie.
Et vous êtes un passionné de...
Un passionné tout court. Dans le sens que j'aime... Tu sais, ce que je fais, il faut que je le fasse à 100%. Il faut que je le fasse, comme je disais tantôt, dans un esprit de dépassement. J'ai aimé passionnément Rona. J'ai aimé d'avoir une entreprise que... Tu développes. Tu sais, quand je suis rentré, l'entreprise faisait 76 millions de chiffre d'affaires. Je l'ai quitté à... Tu as dit 4,9 tantôt milliards. Moi, je l'ai rendu à 5, Simon. Je l'ai laissé à 5 milliards. Puis j'ai aimé faire grandir. J'étais passionné de dire... Parce que je savais que je créais de l'emploi, je créais de la richesse, je partageais la richesse avec les fournisseurs, parce qu'on avait des idées créatives, parce qu'on faisait des choses que les autres ne faisaient pas. Dans toutes ces années-là, on est devenu aussi un modèle en développement durable. T'sais, il y avait plein de choses qui donnaient du sens. Et ça, c'est un grand mot bien important. Des fois, les gens pensent que c'est quétaine, le sens et tout ça. Mais vous allez réussir, les gars, si vous trouvez du sens. Parce que le faire juste pour l'argent, le pouvoir et la gloire, vous allez vous épuiser rapidement. Et vous allez toujours être insatisfait. Qu'est-ce qui donne du sens? Comme je disais tantôt, c'est pas de vendre des clous. Y a-t-il une affaire plus insignifiante que vendre des clous? mais de devenir l'entreprise la plus responsable socialement, environnementalement puis économiquement, oh, là, tu vends des clous différemment. Tu sais, donc, ça a un sens. Puis, tu as l'impression, j'ai toujours eu l'impression, que je travaillais dans une entreprise qui apportait un changement dans la société. Pas toujours flamboyant, mais tranquillement, à chercher des avenues, à chercher des moyens, des approches qui étaient différentes des autres. Je pense que ça nous a permis d'être distinctifs, là. Et moi, j'adorais ça. Ça, c'est une autre chose. Je me suis aperçu que j'étais créatif. Mais à sortir de l'université, tu m'aurais dit, t'es créatif? J'aurais dit, bien écoute, je joue pas de musique, je fais pas de dessin, je fais pas de peinture, j'ai pas de créativité. Mais dans un monde milieu des affaires, dans le marketing, je pense que j'avais comme un potentiel de créativité que j'avais jamais réalisé, mais qui s'est développé là. Encore là, parce que j'avais passion, parce que j'étais engagé, puis parce que j'aimais l'entreprise.
Il y a quelque chose qui m'a marqué de votre passage aux grands entretiens avec Gérald Filion. Vous avez mentionné avoir réalisé tous vos objectifs à l'âge de 40 ans. Je veux comprendre comment c'est possible de faire ça à un si jeune âge.
Bien, c'est-à-dire que moi, il y a une étape. Précédemment à ça, il y a une étape à 28 ans. Moi, j'ai pris 10 jours de réflexion. Je me suis en allé à Vancouver. Je voyageais, mais le soir, je réfléchissais à ce que je voulais faire dans la vie. Moi, je suis un gars d'objectifs. Tu sais, je carbure aux objectifs. Puis un objectif, ça ne se manque pas. Puis je m'étais dit, je me souviens qu'un soir, j'ai fixé un objectif, c'était, moi, je veux être le président de Rona un jour. Je pensais que ça arriverait à 50 ans. Je ne le voyais pas. Je me disais, je vais travailler tellement fort, je vais tellement engager que mon ami vont voir que je peux être le président de cette organisation-là. J'avais décidé ça, puis j'avais mis d'autres objectifs. Je suis arrivé à 40 ans, puis ça faisait 5 ans que j'étais président de Rona, une entreprise qui n'avait jamais fait de profit. Je l'ai rendu profitable. J'ai donné un plan stratégique. On développait des grandes surfaces. En fait, j'avais comme réalisé mon rêve d'être président, mais aussi d'avoir amené Rona ailleurs avec une vision. Donc, pour moi, j'avais fait mes objectifs. Le seul objectif que je n'avais pas nécessairement réussi, c'est d'avoir une vie personnelle, avoir une conjointe, des enfants. Je voyais ce modèle-là, mais j'ai mis tellement de temps sur l'entreprise que je ne me suis jamais vraiment attardé à réussir ça. Mais j'étais hyper content de ce que j'avais fait avec Rona. Et là, j'ai dit, j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis tout le monde, la Rona faisait de l'argent, les marchands actionnaires faisaient de l'argent. Ils faisaient de l'argent comme marchands, puis faisaient de l'argent comme actionnaires. Parce que pour moi, puis j'avais voulu avoir une grande maison. Moi, dans mon rêve, à 28 ans aussi, j'ai dit, moi, je vais avoir un jour, je vais avoir un château, je vais avoir une grande maison. Je l'avais eu à 37 ans. Puis quand je suis arrivé à 40 ans, j'ai dit, pense à d'autres choses, parce que tu as tout réalisé ce que tu voulais réaliser. Ça ne veut pas dire que la vie s'arrêtait, mais ça voulait dire que là, c'était le temps de dire, repars à zéro, puis réfléchis aux nouveaux objectifs que tu veux te donner. En passant, je l'ai eu, la grande maison, je l'ai gardée un an, parce que une fois que tu l'as eu, c'est comme un jouet, tu sais, ça n'avait plus de sens après pour moi.
Mais est-ce que la grande maison, c'est tout de même comme ça que vous définiriez la réussite?
Non. Ça, je le répète, là, tout ce qui concerne l'avoir, le pouvoir et la gloire, c'est, pour moi, c'est tout à fait inutile. Quand on est jeune, c'est sûr que, moi, à 24 ans, là, je commençais à prendre confiance en moi. J'avais été nommé directeur. J'étais allé m'acheter un manteau de fourrure. À l'époque, pour moi, le modèle de réussite dans la vie, c'était un homme qui avait un manteau de fourrure. C'est comme, moi, là, j'étais big. J'avais un manteau de fourrure. Alors, mais tu sais, après que tu l'as eu, là, tu l'as, puis tu te dis, y a-tu quelque chose de plus insignifiant que ça, là? Tu sais, c'est quoi, là? T'sais? Alors, la maison puis le manteau de fourrure, je les ai eus, mais après ça, pour moi, ça n'a pas été de dire, je vais avoir plus, je vais avoir petit, je vais avoir ça. Tu sais, des fois, je coach des jeunes entrepreneurs, puis souvent, on me dit, moi, là, c'est mec que je réussisse, là, je vais aller m'acheter une Maserati. Je leur dis, vas-y, te l'acheter, ta Maserati. Une fois que tu as fait le tour du bloc, c'est quoi ton trip? T'sais? Moi, j'ai été plus, après ça, concerné ou préoccupé par mon développement personnel, de dire, moi, je veux développer une entreprise pour pouvoir faire grandir mes talents puis mon potentiel. Devenir la meilleure version de moi-même.
Mais ça a quand même dû être un beau trip, tout ça. Là.
Oui, absolument. Regarde, c'est un beau trip, honnêtement. Je me suis réalisé que j'avais aimé le trip. J'avais aimé de prendre un architecte, t'asseoir, faire des plans, aller chercher des designers, des gens d'aménagement extérieur. J'ai adoré ça. Mais une fois que je l'ai eu, c'était comme, OK. Puis je voulais pas me dire, bon, ben écoute, j'ai eu ça là, mais OK, je vais attendre, je vais aller la vendre, je vais faire du cash, je vais en acheter une autre plus grosse. Ça, c'était comme, non, c'était pas moi, là. C'était pas ça qui me faisait triper, là. Ce qui me faisait triper, c'est de bâtir une entreprise. Moi, je voulais être un bâtisseur. Je voulais bâtir une grande entreprise qui serait un modèle par son éthique, par ses valeurs, par la façon dont on mobilise les gens. Puis je pense que là-dessus, puis j'ai toujours été... Ma plus grande réussite, en fait, c'est pas le patrimoine que j'ai ramassé. La plus grande réussite, c'est d'avoir tout fait ça en étant toujours fidèle à mes valeurs. Ça, pour moi, c'est ce que je suis le plus fier. Puis ça a été jusqu'à la fin.
Robert, vous êtes clairement quelqu'un qui est extrêmement orienté vers les gens. À quel point vous attribuez votre succès à votre entourage puis aux gens qui ont fait partie de votre carrière?
Écoute, on fait rien tout seul. Moi, Rona a réussi parce qu'il y avait des gens talentueux qu'on a mobilisés autour d'un projet. Tu sais, moi, je dis toujours, la business, c'est un sport d'équipe. On ne réussit jamais seul. Même les sportifs qui font un sport seul, ils réussissent pas seul parce qu'il y a des entraîneurs, il y a un psychologue ici, il y a un nutritionniste. On ne réussit pas seul. Il faut réussir en équipe. Et moi, j'ai aimé réussir en équipe. Tu sais, j'ai aimé choisir mon équipe un peu comme un coach de hockey, qui je vois là, qu'est-ce que je vais faire, comment aller chercher du talent, développer ce talent-là. Tu sais, je répète toujours à mes étudiants, business is people. Tes clients, tes employés, tes clients. C'est une affaire de monde. Et les gens qui réussissent aujourd'hui, c'est les gens qui ont été capables de faire travailler le monde. Tu sais, c'est valorisant. Tu sais, j'ai trouvé ça hyper valorisant.
Vous nous avez mentionné que chez Rona, le personnel vous appelait Robert. Il y avait une grande proximité entre vous et le personnel. Comment qu'on développe ces relations humaines-là avec son équipe, avec ses employés?
D'abord, c'est de les respecter, d'apprendre à les connaître. Lorsque je suis devenu président de Rona, j'ai demandé de rencontrer tous les employés. À ce moment-là, il y en avait 425. Je les ai tous rencontrés en groupe, là, mais en groupe de 15, j'arrivais à apprendre le nombre. J'ai une bonne mémoire aussi pour les noms. Deuxièmement aussi, c'est je pense que ce qui a été ma force, c'est mon authenticité. Tu sais, il n'y a pas deux Robert Dutton. Le Robert Dutton qui est avec vous autres aujourd'hui, le Robert Dutton qui était chez Rona, le Robert Dutton qui est en classe, c'est la même personne. Donc, mon authenticité, je pense que les gens l'ont beaucoup apprécié. Ma cohérence aussi entre ce que je dis et ce que je fais. Parce que tantôt, j'ai dit, c'est un gros mandat, là, réaliser de bâtir une grande entreprise en étant toujours fidèle à ses valeurs, à une éthique irréprochable. Et les risques sont grands, hein? Mais pour moi, c'était, les gens peuvent dire, ce que Robert dit, il fait. Et ça, pour moi, je pense que... Parce que, il y a une chose, là, Simon et Nicolas, c'est que les employés, j'ai toujours réalisé qu'ils ne me demandaient pas d'être parfait. Ils me demandaient d'être vrai. Et quand tu vois qu'on est authentique avec eux, ils vont accepter qu'on n'est pas parfait. Mais ils ont beaucoup besoin de... Tu sais, moi, j'aime beaucoup enseigner le leadership. J'aime beaucoup enseigner le leadership selon Bill George, qui a écrit un livre, qui a été président de compagnie comme moi pendant 22 ans. À sa sortie, il est allé à Harvard. Il a fait des recherches sur le leadership, tu sais. Puis il dit, un, le sens, les valeurs du cœur, des relations durables, puis une vie équilibrée. Moi, j'ai pas réussi la vie équilibrée. Je donne pas le cours de l'équilibre de vie... HEC. Mais le reste, je l'ai eu. Je pense que moi... Puis j'ai avoir un véritable intérêt sur les gens. Parce que même les gens... je faisais pas de différence entre un vice-président puis un employé qui était dans les magasins ou préposé au centre de distribution. Là. C'est... Et C'est drôle, hein? Je vais vous dire une affaire. J'ai plus appris des gens que je dirais ordinaires que des grandes personnes. Parce que souvent, ces gens-là, ils ont un instinct incroyable. Ils ont peu de mots pour l'exprimer, tout ça, mais ils savent reconnaître qui est vrai et pas vrai. Quand je suis devenu président de Rona, il y avait 1300 griefs. Il y avait une des pires situations de relations de travail au Québec. C'était vraiment une situation déplorable. Personne ne voulait s'en mêler. Je suis parti les deux premières années. Écoute, j'étais président, mais je suis allé travailler dans le centre de distribution pendant 2 ans. Je travaillais de 10 heures à 4 heures. De 7 heures le matin à 10 heures, j'étais à mon bureau. De 4 heures à 7 heures, j'étais à mon bureau. J'étais au centre de distribution pour régler ce problème-là. Parler aux employés, tout ça, puis on a réussi à régler ce problème. Mais j'avais une proximité avec eux autres. J'ai réussi à créer un lien. Quand j'étais président de Rona, on a monté jusqu'à 30 000 employés. Je m'organisais pour en rencontrer au moins 5 000 par année. J'organisais la tournée du président. Je jouais des grandes salles comme la Place des Arts, la salle Wilfrid Pelletier, la même chose à Toronto, à Calgary, Vancouver. Je réunissais des gens. Ils arrivaient tout en autobus. J'étais sorti quand ils arrivaient de l'autobus. Je les saluais. Après ça, j'allais faire mon speech. Je leur parlais. Puis je leur parlais, tu sais, je leur parlais avec des mots qu'ils peuvent comprendre. Tu sais, j'essayais pas de dire « I'm the president of the company. And you have the chance to look at me today. » Non, non. Tu sais, on est là, on a un projet, on va faire différent. On veut être la meilleure entreprise au Canada. Je pense que là-dessus, ça a beaucoup accroché les personnes. C'est vraiment, vraiment...
Robert, vous enseignez un cours de leadership à la maîtrise. Selon vous, le leadership, c'est plus inné ou acquis? Est-ce qu'on peut naître avec peu de leadership et devenir un grand leader?
Oui. C'est pas vrai que c'est inné. J'ai beaucoup lu là-dessus. Quand ils font l'étude des grands leaders... Il y en a peut-être juste 20 % qui peut dire qu'il y avait le gène du leader. Le reste, c'est les gens qui l'ont développé. Et souvent, les situations de la vie font que tu développes ton leadership. Et c'est ta conviction du projet personnel que tu as, que les gens vont avoir envie de te suivre. Puis... Quand j'enseigne le leadership, en fait, moi, j'enseigne des cours qui sur le leadership, mais autant à la maîtrise exécutive McGill HEC que la maîtrise régulière à HEC, c'est de la réflexion sur soi. La première caractéristique d'un leader, il se connaît bien. Il connaît ses forces, ses faiblesses. Quand tu connais tes forces, tes faiblesses, tu vas chercher des gens pour les compenser. Tu vas chercher des gens qui vont savoir t'entourer. Mais de bien se connaître, ça, c'est... Mais les gens n'ont pas cette réflexion-là. Oh, non, ils pensent qu'ils ne veulent pas aller là-dedans, ils ne veulent pas réfléchir. Alors, moi, quand j'en enseigne, on prend des journées. L'exécutif MBA, ça dure 6 jours. Des journées à réfléchir sur soi. À leur amener des pistes pour qu'ils apprennent à se connaître à l'aide des situations. T'sais. Les gars, écrivez votre vie. Prenez 3 pages pour écrire votre vie, mais changez de nom. Simon, toi, tu vas écrire la vie de Roger. Écris la vie de Roger, mais qui est de la tienne. Écris. Après ça, fais-la lire à Nicolas. Puis demande des commentaires à Nicolas. Puis tu vas t'apercevoir que tu vas développer des choses que tu ne sais pas sur toi. Alors, c'est des exercices qu'on leur fait faire, entre autres, mais c'est des exercices qu'on leur fait faire pour que les gens apprennent à se connaître. Il faut se connaître. Puis il faut être capable de réfléchir sur soi. Ça, c'est faire un peu d'introspection. C'est comme je disais tantôt, c'est pas se jouer dans le nombril, là. Ça, enlever ça tout de suite, là. Les gens pensent que c'est... Non, non. Mais ça oblige aussi à se remettre en question. C'est pas facile. Pas tout le monde qui veut se remettre en question. Pas tout le monde qui veut voir ses faiblesses. Surtout, tu sais, on... Alors, moi, je viens d'une génération où l'estime de soi, là, par les parents, là, de préserver l'estime de soi de l'enfant, c'était pas un concept qui existait, là. Aujourd'hui, c'est plus... Alors, mais c'est... je m'aperçois avec les jeunes que c'est pas toujours facile qu'ils se remettent en question. Là. Ils ont grandi dans un contexte où on les a beaucoup valorisés. Puis c'est correct. Mais, à un moment donné, tu sais, la vie s'est changée. Si tu n'aimes pas le changement, parfait. Tu vas avoir une bonne vie. Là. Tu vas trouver un job tout de suite. Tu vas travailler dans une grande entreprise paragouvernementale. Puis tu vas monter tranquillement. Tous les 6 mois, ils ont une petite affaire pour te faire monter. C'est bien correct, je ne juge pas ça du tout. Mais si tu es prêt à te challenger, si tu es prêt à te remettre en question, si tu es prêt à pousser tes limites, comme je disais tantôt, tu vas avoir une vie qui est intéressante et sur laquelle tu vas avoir une satisfaction personnelle.
Vous avez mentionné à plusieurs reprises à travers le podcast que vous valorisez le fait que Rona est une entreprise québécoise. Et vous affirmez avec assez de conviction là, que c'est important de faire briller nos fleurons québécois. Évidemment, là, être au sommet d'entreprise, il y a beaucoup de défis qui accompagnent ça. Et surtout une entreprise québécoise. Est-ce que vous seriez capable de nous guider à travers les défis auxquels vous avez fait face à titre de PDG de Rona?
Bien, c'est évident que le plus grand défi, ça a été la croissance. Puis je pense qu'on l'a relativement bien réussi. On est passé d'une entreprise, une coopérative extrêmement traditionnelle, souvent avec une ceinture fléchée, à une entreprise publique dont les actions se transigent à la bourse. C'est un autre monde complètement différent. C'est évident que ça a porté des défis nouveaux. C'est de faire grandir une entreprise, de l'amener à s'ouvrir au changement.
Au Québec, c'est-tu plus un défi?
Moi, j'ai une grande confiance au potentiel des Québécois et des Québécoises. Ça, pour moi, je suis certain qu'on a du talent. On l'a prouvé dans toutes sortes de secteurs. Puis on est capable encore de le faire. Moi, je croyais que Rona... Écoute, on est quand même une entreprise qui était une coopérative québécoise qui faisait de la distribution, où les magasins appartenaient à des marchands et nous, on leur distribuait de la marchandise qu'on avait achetée, stockée dans un centre de distribution qu'on redistribuait. Donc, on avait un métier de distributeur. En l'espace de 10 ans, on est devenu une entreprise publique, l'action cotée à la bourse, pan-canadienne et une entreprise dont le chiffre d'affaires venait plutôt du commerce de détail. Donc, on a eu un défi de transformer une organisation pour l'adapter aux nouvelles réalités du marché. Donc ça, c'était un défi énorme. Puis on le fait en créant toujours de la richesse. Évidemment, quand on est devenu une entreprise publique, j'ai trouvé ça plus difficile. C'était pour moi, je dirais, on est entre nous, là, pénible. C'est parce que l'espèce de volonté des actionnaires du 3 mois, de toujours développer, d'aller chercher des résultats meilleurs de 3 mois en 3 mois. Ça nous empêche d'avoir une vision à long terme. Donc ça, j'ai trouvé ça difficile. J'ai trouvé ça difficile aussi où, lorsqu'une récession est arrivée à partir de 2008, qui, dans notre secteur d'activité à nous autres, s'est prolongée pendant des années, plus longtemps que là, eux, la seule façon qu'ils ont vu de faire valoriser leur capital investi dans l'organisation, c'était de vendre l'entreprise. Alors, et d'ailleurs, je n'ai pas voulu la vendre, c'est pour ça qu'on a terminé notre relation. Parce que moi, pour moi, je ne voulais pas vendre cette organisation-là. On avait 30 000 emplois, mais on créait 48 000 emplois dans le secteur manufacturier, au Québec particulièrement et au Canada. On avait une entreprise qui avait un programme de développement durable exceptionnel. Nous, nos partenaires, c'était David Suzuki, Stephen Guilbeault qui était chez Équiterre, les gens de Greenpeace. On ne s'est pas battu contre eux, on les a assis à une table. On a développé notre programme de développement durable avec eux. Un Américain qui achète Rona, il s'en fout dessus, lui. Il s'en fout dessus d'acheter au Québec. 65 % de ses produits sont achetés en Asie. Alors, tu sais, alors moi, c'était absolument contre le fait de vendre Rona. J'ai payé un prix, mais quand je m'objectais, j'ai payé. Je savais qu'il y avait un prix à ça. Que si je réussissais pas, si tu veux pas faire ce que les actionnaires te demandent de faire, ben écoute, je suis un grand garçon, là. Je sais qu'est-ce qui va se passer. Mais pour moi, encore une fois, dans mon éthique personnelle, dans mes valeurs, c'était impossible de vendre au-delà. Puis en plus, je fais ça pour les jeunes. Hey, les gars, est-ce que vous allez travailler? Allez-vous devenir des serviteurs d'entreprises américaines? Est-ce que vous autres, votre objectif dans la vie, c'est de prendre un téléphone chaque matin de quelqu'un qui a son bureau dans un État américain qui va vous dire quoi faire? Mais comment on va développer le talent? Puis, tu sais, à la fin, je dirigeais une entreprise qui avait 75 ans d'existence. Des hauts, des bas, on avait vu, là, tu sais. Alors, puis on avait un positionnement qui était très bon, puis... Alors, tu sais, mais moi, je dis non, on a trop de talent au Québec pour devenir les serviteurs des Américains ou des Anglais ou des Français. C'est pas vrai, c'est... Et c'est pour ça qu'à HEC, quand j'enseigne ou quand je fais du coaching, je cherche des bâtisseurs. C'est ce que l'économie du Québec a besoin.
Vous qui êtes très proche des jeunes entrepreneurs québécois, quand vous regardez la situation actuelle, est-ce que vous avez espoir pour le futur?
On a une bonne... C'est-à-dire que ce qui a beaucoup changé, c'est notre perception face à l'entrepreneuriat. Donc, il y a plus de gens qui ont de l'intérêt à lancer leur entreprise, comme on n'a jamais vu. T'sais, je pense qu'on a monté même jusqu'à 30 % de personnes qui pensaient à un jour à lancer leur entreprise. Donc, ça, c'est un « wow » parce qu'on n'était pas nécessairement des entrepreneurs. Toutefois, depuis quelques années, le nombre d'entreprises lancées diminue. Alors, on veut le faire, mais on ne pose pas le geste. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on pose le geste? Et surtout, quand on est jeune, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu n'as absolument rien à perdre. C'est du temps d'apprentissage. Tu sais, moi, quand je coach un jeune entrepreneur, je me dis, OK, tu veux lancer ton entreprise, mais si ça ne marche pas, si ça ne marche pas, moi, j'étais chef d'entreprise, je t'embaucherais. Tu as voulu lancer ton entreprise, tu as passé toutes les étapes, tu as vécu c'était quoi, bien, rentre chez nous parce que moi, je vais faire de toi un intrapreneur. C'est un bagage que pas d'université va te donner. Désolé pour les universités. Non, mais il n'y a pas d'université qui va te donner ça. Alors, tu sais, moi, je me dis, c'est quoi le risque quand on est jeune? D'apprendre, d'oser. On commence à avoir des belles histoires de succès à HEC, en tout cas, avec nos incubateurs, Parcours Rémi Marcoux, Entreprise. Tu sais, on a des... Puis, je regarde les jeunes, à part de ça, ce que j'aime, par contre, c'est les jeunes qui veulent partir. Oui, ils veulent être profitables, mais ils ont une vision de responsabilité sociétale qui est très importante. Alors, pour moi, je me dis, attends une seconde, on est en train de créer une génération d'entrepreneurs qui ne vont pas juste vouloir faire du cash pour du cash, qui ont aussi des valeurs importantes, qui vont vouloir préserver l'environnement, être socialement responsables. Donc, il y a quelque chose, pour moi, en tout cas, qui est très rafraîchissant, qui est très motivant. C'est pour ça que je donne autant d'heures, là, parce que je suis vraiment... Moi, un jeune qui vient à mon bureau, les gars qui me disent « Hey, monsieur, j'ai un projet là, pour changer le monde. » « Oh boy, assieds-toi. » « Ah là, on va partir, il y a un projet pour changer le monde. » Alors, mais c'est ça. Mais là, une fois que tu as ton projet, après ça, il faut chercher des bâtisseurs. Des gens qui... Parce que là, on a beaucoup le modèle. Ils ont monté une entreprise, ils l'ont vendue. Ils ont vendu ça 30 millions, 40 millions. Ils ont fait du cash ou 20 millions. Ils sont contents, ils s'assoient sur là. Puis là, ils placent leur argent, puis ils gossent avec... Ah, c'est pas ça, là. Il faut viser plus gros que ça, là. Tu sais, là... Faut viser avec des... Comme on a eu avec Pierre Péladeau, comme on a eu avec Laurent Beaudoin, comme on a eu avec Rémi Marcoux. Tu sais, il y a plein d'exemples. Alain Bouchard, il y a plein d'exemples de gens qui sont là. Puis ces gens-là s'en vont sur la sortie. Il faut, Jean Coutu, il faut faire renaître ça. Puis je pense que les jeunes que j'ai, en tout cas, ceux que je rencontre au HEC, ont le potentiel pour ça. Il faut juste qu'ils te donnent un petit peu le coup de pied au derrière pour le faire.
Comment trouvez-vous les plateformes qu'on a en place pour soutenir les entrepreneurs québécois?
La structure d'accompagnement est exceptionnelle. Mais juste ce qu'on fait, seulement ce qu'on fait à HEC, c'est incroyable. C'est même pas connu dans HEC. Je trouve ça aberrant. Moi, j'amène mes étudiants à l'espace entrepreneurial pour passer un cours, pour qu'ils voient les ressources qu'on a. Et t'as un réflexe, Simon, t'as dit les ressources financières. Quand tu as un bon projet, tu as les ressources financières. Est-ce que la Caisse de dépôt est là? Non. Les grands financiers sont encore un peu hésitants, mais il y a plein d'autres ressources qui sont là pour t'aider à partir. Quand tu as un bon projet, c'est clair que l'argent va venir. Mais il y a une période où c'est dur. Puis il y a une période où tu vas manger des sandwichs, puis j'ai vu des jeunes entrepreneurs qui ne mangeaient pas. Puis ils étaient souvent chez leurs parents pour aller souper, puis regarde, c'était pas facile. Mais aujourd'hui, regarde, c'est comme ça que tu pars. Je leur dis, bien, regarde, ça va faire ton histoire. C'est dans le livre que tu vas écrire dans 40 ans, ça va être incroyable. Alors, c'est sûr qu'il y a un effort à faire, mais il faut se faire confiance, il faut croire. Mais les ressources sont là. Moi, j'ai arrêté un bon projet, il y a les ressources financières, mais les autres ressources sont... Le Québec est bien servi. Uniquement à Montréal, on a 80 incubateurs. C'est plus que des pays complets, là. C'est incroyable, là. Mais les gens, ils vont, ils arrivent avec un petit échec, ils arrivent à ça, non, ils arrivent, ça ne fonctionne pas, ils recommencent. Ah non, ça n'a pas fonctionné. Ah non, attends une seconde. C'est parce que tantôt, je vous résume ma carrière, la chance et tout ça, mais hey, des claques à la gueule, mais eu, là.
Ouais.
C'est Des reculs en arrière, je n'ai eu, je suis reparti. Mais si c'est la volonté de garder le cap sur le rêve qu'on a. Quand tu es passionné, tu as des rêves. Tu te mets à rêver et tu dis, tu rêves à quoi? Puis là, moi, je rêvais de faire une grande entreprise. Je rêvais de faire la plus grande entreprise en quincaillerie, en matériaux de construction et jardinage au Canada. Puis si j'ai réussi à le faire avec d'autres, pas tout seul, avec d'autres que j'ai motivé avec moi, avec qui j'ai partagé mon rêve. Puis... Faut se croire en soi. Il faut se faire confiance. Puis de se rappeler qu'encore une fois, on ne réussit pas seul. On a besoin des gens.
Puis souvent, c'est nous-mêmes qui se mettons les propres barrières, là, si je comprends bien ce que vous dites, Robert.
Oui. Puis avoir le goût de réussir rapidement, parce qu'on est très attiré par les symboles de la réussite. La grosse maison, la grosse auto, les choses qui... Le voisin convenable, là. Ça, c'est... Alors que essentiellement, c'est pas ça.
Robert, ça a été un plaisir de vous écouter. Merci pour la générosité que vous avez eue dans vos réponses. On aimerait terminer nos épisodes avec les quatre mêmes questions. La première étant la suivante. Quel est le meilleur conseil qu'on vous a donné?
Je dirais que le meilleur conseil que j'ai eu, c'est un conseil assez technique, mais c'est un marchand, mais un membre du conseil d'administration qui m'avait dit « Tombe jamais en amour avec un deal. » Parce qu'on faisait beaucoup d'acquisitions chez Rona. Puis il me disait, la meilleure, tombe jamais en amour avec un deal. Ça peut paraître banal, mais c'est un conseil que j'ai eu qui m'a été extrêmement utile dans le développement de mon entreprise. Parce qu'on a fait 40 acquisitions en 10 ans. Et quand on arrive dans un processus, parce que faire une acquisition, tu sais, c'est très glamour. C'est glamour, il y a un gros climax, là. Tu sais. Mais après ça, il faut que tu vives avec, puis donc il faut que tu ailles payer le juste prix. Puis... Donc ça, c'est un très bon conseil.
Je tourne un petit peu la question que Simon vous a posée juste avant. Si vous, maintenant, vous aviez à donner un conseil aux jeunes, ça serait quoi?
Sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort, développez votre zone de confiance. Allez au bout de vos talents. Puis contentez-vous pas de juste qu'est-ce qui est correct. Fixez sur votre dépassement. Focussez-vous sur quel est mon dépassement personnel. Qu'est-ce qui a fait que je suis devenu la meilleure version de moi-même?
OK, maintenant, une personne que vous admirez.
Elzéar Bouffier. L'homme qui plantait des arbres, le livre de Jean Giono, qui est un très beau film aussi de Frédéric Bach, un film d'animation. L'homme qui plantait des arbres, à 55 ans, il est tout seul. Il trouve une région désertique. Chaque soir, il choisit 100 glands de chêne. Le lendemain, il va planter 100 glands de chêne. Il sait qu'il y en a 80 qui ne sortiront pas de terre. Des 20 qui vont sortir, il y en a 10 qui vont mourir avant la croissance finale à cause des intempéries. Mais il continue chaque jour de le faire. C'est une leçon écologique aujourd'hui que tout le monde parle. Mais pour moi, il y a une leçon dans la durée. T'sais, aujourd'hui, on valorise le succès rapide. Moi, je valorise le succès dans la durée. Donc, lui, ce que j'aime, c'est qu'il n'arrête jamais. Puis malgré les échecs, malgré ce qui se passe, il n'arrête jamais. Puis le livre fait qu'à la fin, il a créé une région, il y a eu des arbres, ça a retenu l'eau, il s'est commencé à avoir des rivières, les gens ont commencé à réhabiter. Il a créé la vie. Pour moi, mon modèle, c'est Elzéar Bouffier. Mais je dirais aux jeunes, moi, le jeune, tu sais, vous n'aimez pas beaucoup lire, vous aimez beaucoup les. Mais je pense que de lire, c'est important, puis concentrez-vous sur des biographies. Pas à la biographie là, de quelqu'un qui a gagné l'île de l'amour, là, puis qu'après ça, fait de l'argent, là, mais des biographies des grands hommes de l'histoire ou des grandes femmes de l'histoire. Ou des podcasts ou des YouTube là, sur ces grandes personnes-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour vous inspirer. Pas devenir des clones, mais vous inspirer.
C'est parfait, parce que c'est ça notre dernière question. Donc, un livre ou une biographie que vous recommanderiez?
C'est une biographie de quelqu'un qu'on ne connaît pas beaucoup, qui s'appelle Jacques Lucéran, qui s'appelle « Et la lumière fut », qui est l'histoire d'un jeune garçon qui, à 8 ans, devient aveugle. Et qui décide que ce n'est pas un handicap. Et il développe toute sa vie avec ce qu'on pourrait croire, nous, que notre vie finit à 8 ans ou à 9 ans d'être aveugle. Puis lui, c'est juste... Le lendemain matin, il avait décidé que c'était... Bon, regarde, c'est ma nouvelle condition. Nous, il a fait partie de la résistance française. Il a été dans les camps de concentration. Tout ça. C'est un livre sur, encore, sur la durée, la confiance en soi, le dépassement personnel. C'est une histoire... Je l'ai lu 3 fois. C'est pas un livre très connu, mais c'est vraiment... C'est une femme qui me l'avait donné, puis elle a vraiment bouleversé ma vie. Il faut chercher des gens qui vont nous inspirer.
Écoutez, après l'heure que vous venez de nous accorder, je pense qu'on pourrait également parler de mise à niveau, l'autobiographie que vous avez écrite.
Oui, écoute, c'est ce livre que j'ai écrit pour faire le point sur ma vie après mon ancienne vie, et puis pour clarifier des choses aussi. Puis, mais tu sais, je suis un mauvais vendeur de mon livre. Je dis, allez acheter mon livre, ça va bien aller. Non, non, je l'ai écrit, puis s'il y en a qui pensent que ça peut les intéresser, ben. Je pense qu'il est bon, là, mais...
Un mot de la fin?
Hey, les gars, voyez grand. Là, vous commencez une entreprise, ce premier podcast. Focussez-vous à devenir le plus grand producteur de podcasts au monde. TED Talk de l'audio. Rêvez grand. Faites-vous confiance, puis dépassez-vous. Contentez-vous pas de ce que vous avez, dépassez-vous. Vous avez plus de talent que vous pensez. Et s'il y a des gens qui nous écoutent, qui pensent que... qui ont vraiment, vraiment beaucoup de talent, il y a 10% des gens qui ont beaucoup moins de talent qu'ils pensent. Mais la vie s'occupe d'eux. Moi, je me préoccupe des 90 autres qui ne réalisent pas le talent puis le potentiel qu'ils ont, puis l'opportunité qu'ils ont de le développer. Parce que les événements de la vie peuvent le faire de vous un grand leader.
Robert Dutton, merci beaucoup.